Rentrée littéraire, rentrée politique, qui est qui? Qui dit vrai? Où est le réel? Où est le romanesque le plus haletant, le plus surprenant? On nage en pleine fiction, dit-on. Mais à la fin, il se passe quoi?
Pascal Paradou.
Macron dit le chanoine, Mélenchon l'ancien sénateur de Massy, Manuel Valls, Sarkozy, mais aussi Grémond, Frayère ou Taillevent sont les personnages du nouveau roman d'Aurélien Bélanger, Les derniers jours du Parti socialiste. Bélanger qui depuis quelques années s'installe à la croisée des chemins entre le réel et la littérature, avec le sentiment vertigineux de ne plus savoir où est la fiction. Bonjour Aurélien Bélanger.
Bonjour.
Le monde est romanesque, notre société aussi pour vous ?
Absolument. En tout cas, le roman est, depuis un peu plus de deux siècles, un très bon outil pour essayer de comprendre le monde.
Et quand vous lisez le journal ou que vous écoutez les infos, vous dites quoi ?
Il m'arrive de me dire, tiens, super sujet de roman, super personnage de roman. Et puis parfois, je tombe dans le piège et je sacrifie deux ans de ma vie à développer cette intuition que c'était vraiment romanesque.
Mais vous vivez l'actualité comme une fiction ? C'est possible de la vivre comme une fiction ?
Ah, c'est compliqué. Disons que l'actualité telle qu'elle existe, par exemple sur les chaînes d'information en continu, elle est très fragmentaire et elle est à la fois omniprésente et elle ne dit rien. Donc il est intéressant d'aller chercher ce qu'elle dit vraiment. Donc il faut trouver un lieu de distance et la littérature en est un, ouais.
Alors on vous prête l'ambition d'un Balzac qui, dans la comédie humaine, a raconté les rouages de la société de son temps. Est-ce que c'est votre projet ?
Ouais, ça serait immodeste, mais...
vous avez le droit de l'être.
J'avais l'intention d'écrire depuis toujours des livres, et puis un jour j'ai commencé à lire la comédie humaine de façon suivie, comme on fait rarement, et mon premier livre s'est inscrit, La théorie de l'information, il y a un peu plus de 10 ans, 12 ans, s'est inscrit dans cette continuité de ce projet, avec l'idée, tiens, je vais raconter un truc balzacien, donc l'histoire de quelqu'un qui fait fortune, etc. Et je suis resté dans ces thèmes, donc mélange de personnages réels et de personnages fictifs, volonté de raconter, de tenir une portion du temps. Alors quelle est la portion du temps que j'essaie de tenir ? C'est plutôt le temps dont je suis contemporain, les 40 dernières années, quoi, à peu près, faire de l'histoire récente, mais pas en historien, en romancier, pour raconter à quel point tout ça relève aussi de la fantasmagorie, parce qu'il y a dans le projet réaliste de Balzac, et dans tout projet réaliste, quelque chose de secrètement magique, il me semble.
Alors, il y a dans votre personnage des romans réels, j'en ai cité quelques-uns, et d'autres moins, mais on les reconnaît quand même.
C'est toute la question. Alors, est-ce que c'est un roman à clé ? Oui et non. Parce qu'une fois que c'est dit que c'est un roman à clé, bon, c'est amusant de trouver quels sont les personnages. Moi, en toute honnêteté, je connais de mes personnages rarement plus que leur fiche Wikipédia s'ils en ont une. Je brode beaucoup, j'invente. Grosso modo, ils naissent à la bonne année, ils ont les mêmes actions. Je m'en écarte très vite. Je pirate un bout du réel et je le tourne à ma sauce.
Vous parlez de personnages dans une histoire parallèle. Alors, ce mot-là d'histoire parallèle, d'actualité parallèle, il m'inquiète.
Alors, c'est plutôt parallèle, disons que c'est quelque chose que je tiens spécialement de Balzac. Il y a des fois, on ne peut pas mentir. Quand c'est Louis-Philippe, c'est Louis-Philippe. Voilà. Quand c'est la présidence Hollande, c'est la présidence Hollande.
Quand c'est Macron, c'est Macron.
Voilà. Quand c'est des personnages un peu interlopes, pas spécialement connus, des personnages de l'ombre, des coulisses, là, on fait ce qu'on veut. Voilà. Il y a un côté, on ne peut pas totalement truquer le pacte réaliste, mais il y a des endroits où on est beaucoup plus libre.
Vous dites que ce roman relève de l'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire que ça n'est pas tout à fait la vérité, ce n'est pas une vérité alternative non plus, qui a été mise sur le devant de la scène, notamment par Donald Trump. Alors, ce serait quoi cette histoire contrefactuel, le roman justement.
Alors précisons que c'est une précision qui est un peu extra-littéraire que nous devons au service, à l'excellent service juridique du Seuil. histoire contrefactuelle, disons,
histoire de voilà, pas avoir de procès.
Voilà, en vrai ça protège pas. Non, c'est une histoire parallèle dans la mesure contrefactuelle. Disons que voilà, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas vraies, mais ça se passe dans notre monde.
Bon, c'est important de le dire quand même. On pourrait croire que tout est vrai.
Non, et puis, alors après, le risque, et c'est arrivé à plusieurs de mes confrères, c'est d'inventer quelque chose qui s'avère vrai et qui ne savent pas. Et là, procès, perte du procès, catastrophe, j'étais sincère. Donc voilà, bon, c'est un risque léger, mais qu'on encourt.
Alors, dans ce roman, Les derniers jours du Parti socialiste, Aurélien Bélanger, vous racontez donc les 20 dernières années qui ont vu le PS perdre de son influence et, d'une certaine façon, rater la bataille des idées, avec un personnage qui est un personnage inventé, mais basé sur un personnage réel, un certain Grémond, qui est un apparatchik qui va peu à peu prendre de l'importance et devenir un homme d'influence puissant et fonder, ça c'est le nom du roman, le mouvement du 9 décembre, en référence à la date de promulgation de la loi de 1905 qui assure la séparation de l'État et des Églises. Et en fait, ce personnage de Grémond est un personnage qui a existé, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, et qui a fondé un parti, une association qui s'appelle le Printemps républicain.
Il y a une inspiration. Alors, le Parti socialiste, moi, je m'intéresse beaucoup aux mythologies. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai fait des mythologies un peu techniques. J'ai fait un bouquin sur le Minitel, un bouquin sur le TGV, l'aménagement du territoire. Là, la mythologie, c'est le PS. Le PS, moi, j'ai grandi avec, je l'ai toujours connu. Et le PS, en vrai, j'y suis jamais allé. Je ne connais pas le PS. Je sais qu'il y a des éléphants. C'est marrant qu'il y a des éléphants. Je sais qu'il y a des universités d'été annuelles. Longtemps, c'était à La Rochelle. Je sais qu'il y a des courants, qu'il y a des courants minoritaires, qu'il y a des congrès. Voilà, il y a une sorte de vie. Essayez d'imaginer. Donc, j'ai essayé d'imaginer quelqu'un qui créerait un courant parallèle, une motion qui perdrait de congrès en congrès, mais qui ferait exister une voix et qui serait une sorte d'idéologue dans un petit bureau. Ça marchait bien parce que je voyais un peu un hôtel particulier à l'époque où ils étaient à Solferino. J'ai imaginé. Je ne suis jamais rentré à Solferino, mais j'ai imaginé des demi-étages. Donc, quelqu'un qui est à la fois à l'étage du premier secrétaire et à la fois Et de ce petit bureau, il manie des idées, avec cette idée qu'en fait, un parti, c'est aussi une machine à produire des idées. Et que ce qu'on envoie, c'est des gens qui vont parler sur les plateaux télé ou c'est des brochures, des tracts qu'on va distribuer, mais derrière, il y a des intellectuels. Et d'un coup, je rentrais dans un monde que je connaissais pas franchement, mais qui était intrinsèquement romanesque. Et donc, je me suis amusé à imaginer un idéologue du Parti socialiste, quelqu'un qui veut le réformer de l'intérieur, qui va faire quelque chose que moi j'appelle une hérésie, parce qu'en fait il va détourner le Parti socialiste de son progressisme de gauche initial, il va fabriquer autre chose. Mais tout ça permettait d'être un peu dans les coulisses et avant la politique. On n'est pas directement dans le jeu politique, c'est pas une histoire à la Baron Noir de quelqu'un qui conquiert le pouvoir, etc. C'est plutôt l'histoire de quelqu'un, alors a-t-il échoué, manque-t-il de force pour conquérir le pouvoir, mais en tout cas qui conquiert le pouvoir idéologique. C'était quelque chose qui me plaisait de te raconter ça.
Alors de l'histoire de la vie politique française et de la gauche autour de ce personnage de Grémond, Aurélien Bélanger, vous allez nous raconter comment vous avez conçu ce personnage et pourquoi, après Rosé, c'est un groupe canadien, pas la peine.
Je vis de femme née de solitude, sans famille, mais j'ai l'habitude. Un peu d'air pur, le temps que ça dure, bien pour caresser la surface de nos engelures. Où ça fait mal, mon corps est constamment malade. La mort est un peu trop banale. Je peux passer encore un autre mois de mai à Montréal. C'est pas la peine, oublie la tienne. À quoi ça sert de souffrir maintenant? La porte est tiède. Hier, le temps que j'oublie le goût du charbon à la petite cuillère, de couper mes racines, brouiller mes repères. Maintenant je gèle sur place à chaque hiver. La perte de mémoire est mon seul remède. Le plancher craque, le jour se lève, la corde est fine, le café raide. Par l'équilibre, le temps s'arrête. C'est pas la peine, oublie la tienne. À quoi ça sert de souffrir maintenant? Le cœur me lève, j'ai jamais voulu remonter le temps. C'est pas la peine, oublie la tienne. À quoi ça sert de souffrir maintenant? La part est tiède, le cœur me lève, j'ai jamais voulu remonter.
Oh. rosé sur RFI, à ne pas confondre avec le rosé que l'on boit sur les terrasses de café ou la couleur du parti à la rose, le PS, qui est le sujet du nouveau roman d'Aurélien Bélanger, avec ce personnage de Grémond, surnommé le cardinal de Solferino, en référence à l'ancienne adresse du siège du PS. Grémond qui va faire de la laïcité son étendard et ainsi installer la lutte contre l'islam et les communautés maghrébines comme moteur principal de ce parti, le mouvement du 9 décembre, alias le printemps républicain qui va être créé en 2016. Est-ce que pour vous, vous parlez d'hérésie, est-ce que c'est un dévoiement de la laïcité que cet homme politique, ce personnage, puisque c'est l'un et l'autre, a mis en place ?
Alors, vaste question, parce que la laïcité, c'est l'ADN de la gauche. La gauche, c'est la gauche de 1905, s'est battue contre l'Église, pour l'indépendance, etc., du champ politique. Donc, la laïcité, incontestablement, l'héritage de la gauche. Il est effectivement apparu, ces dernières années, une laïcité qui sortait du champ des principes pour devenir une valeur, ce qu'on a appelé une laïcité de combat. Et il est apparu à pas mal d'observateurs, dont moi-même, que c'était une façon, disons-le franchement, de réintégrer le bon vieux racisme au logiciel de la gauche. Un racisme, comment dire, moins penser que penser pour, c'est-à-dire les classes populaires souffrent du racisme, etc. C'est quelque chose qu'on a oublié, mais qui était très... Ça date de 2016, quoi, avant l'élection de Hollande. C'était ce qu'on a appelé la Terra Nova, une fondation politique qui dépendait du PS, qui a écrit une note, disons, quelle majorité pour gagner, en gros, et disait qu'en fait, il faudrait une alliance entre les classes cultivées des villes, la classe moyenne intellectuelle, et les habitants racisés des quartiers populaires. Et ça a été une sorte de grand scandale, alors que moi, je reprends dans le livre en imaginant qu'en fait, cette note, elle a été quasiment rédigée à l'intention de mon personnage, exprès, pour créer justement ce scandale. Et ce vieux débat de la gauche, est-ce que... la conquête du vote ouvrier, sachant que le vote ouvrier a été perdu pour la gauche depuis longtemps, parce que le vote ouvrier va au Rassemblement national depuis maintenant un quart de siècle, et une gauche qui se dit qu'il faut qu'elle reconquière ce vote ouvrier en imaginant que les ouvriers, fondamentalement, souffrent d'insécurité culturelle et sont ataviquement racistes. Ça me semble extrêmement problématique de raisonner comme ça. Et ça suit aussi cette ligne de base plus sourde que j'essaie de faire jouer dans le roman, qui est le procès de la gauche mai 68. En fait, le procès d'une gauche qui serait dans le sociétal, qui serait une gauche, on va dire, entre guillemets, dégénérée, qui, au lieu de vendre du pouvoir d'achat à des bons ouvriers blancs qui aiment le saucisson, leur vendrait du travestissement, de la drag queen et de la fluidité de genre. Et il me semble que là se joue quelque chose de crucial dans l'histoire de la gauche, parce qu'en fait, elle va renoncer à accompagner les causes sociétales, elle va renoncer à être le parti du progrès, et elle va devenir une gauche conservatrice, qu'on a aussi appelée la gauche orwellienne, travaux de Michéa, disant qu'en fait, il ne fallait pas effaroucher le bon peuple, le bon sens du bon peuple. Et il me semble que ça est une trahison profonde et presque mortelle pour l'ADN de la gauche, et c'est ça a quasiment, à un moment, failli être mortel pour le Parti Socialiste.
Vous écrivez que la laïcité est un prétexte qui permet la création d'un ennemi intérieur. Est-ce que, dans le cas du personnage de Grémond, c'est une stratégie calculée que d'utiliser la laïcité pour glisser, finalement, vers une position réactionnaire et d'extrême droite ?
Alors oui, pour mon personnage, c'est un calcul machiavélien. Voilà, c'est la position qu'il va occuper, et puis c'est une position qui est très minoritaire et qui est très fragile, et vont arriver les attentats de 2015, et cette position minoritaire va devenir extrêmement centrale, parce que l'arrivée du terrorisme et de l'islamisme radical en France va rebattre radicalement les cartes et va rendre son mouvement très séduisant. Est-ce qu'il est... Alors, c'est quelque chose... Moi, en fait, ça m'a rappelé des vieilles choses de la vieille gauche, la gauche de Jules Ferry, c'est-à-dire une gauche à la fois progressiste, qui fait les lois sur l'école, et une gauche impérialiste, c'est-à-dire une gauche qui pense qu'elle a une mission vis-à-vis des pays arabes.
Enfin, civilisatrice.
Et là, je trouve que ça touche quelque chose de vrai. C'est ce qu'on appelle l'universalisme, en fait. Une gauche qui refuse... Globalement, on parlait d'héritage mai 68, qui refuse la déconstruction, qui pense qu'il y a vraiment un universel, et que derrière, c'est pas directement du racisme, mais c'est à la fois moins et pire, parce que c'est un classement des civilisations entre elles, avec ce sentiment que cette gauche va vouloir défendre, que la civilisation occidentale est supérieure aux autres. Et ça s'est notamment vu, et c'est pour ça que derrière, il y a aussi, les gens se sont positionnés de façon très critique vis-à-vis de MeToo, vis-à-vis de la cancel culture, etc. Il y a aussi l'idée que, par exemple, la civilisation occidentale est supérieure parce que les femmes y sont mieux traitées, par exemple, que dans le monde arabe, avec cette idée, d'un coup, MeToo est une petite dissonance. Ah, en fait, le patriarcat existe, il était juste mieux caché. Donc, en fait, en dernier lieu, c'est un racisme complexe qui ne se dévoile pas à lui-même. Les personnages ne le savent pas, mais en dernier lieu, ils pensent quand même qu'il y a un universalisme français qui est supérieur. Et il faut bien rappeler que c'est la matrice de la colonisation. Donc cette chose qui a l'air assez inoffensive, en dernier lieu, c'est quelque chose qui permet la réouverture de tout un pan un peu occulté de l'histoire française. Et c'est pour ça que j'y vois, moi, la matrice possible d'un fascisme français.
Et donc, c'est la position de votre personnage, de ce fameux Grémond.
Voilà, donc c'est un personnage, disons-le, un peu à charge, qui m'a intéressé, parce que j'aime bien le côté, un petit peu, la personne qui magouille dans les coulisses du pouvoir. C'est un personnage qui m'est sympathique, en fait, dans son mode d'action. C'est un bon personnage de roman, si je puis me permettre. Mais c'est un ennemi idéologique, plutôt, oui.
Alors, il va mettre en action le concept de méta-politique, qui a été inventé par un philosophe communiste italien, Gramsci, au service de sa cause, donc le combat des idées. On est bien dans une guerre idéologique. Et j'aimerais, Aurélien Bélanger, que vous nous lisiez un extrait de votre roman où il raconte comment il va de Gramsci à ailleurs.
Former des polémiques, les alimenter, utiliser tout ce qu'on pouvait pour les structurer, tribunes et faits divers, alimenter tout autour de la froide politique politicienne le grand feu des passions éternelles, qu'on pouvait appeler, faute de mieux, patriotisme. Voilà quelle était la mission du véritable intellectuel. Non pas critiquer toujours l'État comme on en avait trop pris l'habitude au pays de Sartre, de Foucault et de Bourdieu, mais le pousser à assumer sa tâche, parfois tragique mais toujours héroïque. Pas spécialement en le réformant d'ailleurs, la réforme de l'État était le domaine des médiocres, mais en l'emmenant là où il aurait le plus de chances d'accomplir de grandes choses, vers les terres fertiles de l'histoire. Peu importait, au fond, que le gouvernement soit de gauche ou de droite, démocratique ou autoritaire, le modèle éternel était l'alliance sacrée de 1914, plus de partis alors, seulement la France, toutes les Frances, l'ancienne et la moderne, celle des colonies et celle de la métropole. Voilà ce dont rêvait Grémond, lecteur de Maurras.
De Gramsci à Maurras, cela s'appelle quand même plus qu'un glissement, Aurélien Bélanger. C'est un retournement, d'autant que votre personnage se pose en intellectuel, mais son arme principale, ce sont les réseaux sociaux. C'est Twitter, c'est X.
Absolument. En fait, je me suis amusé avec le mouvement du 9 décembre et il y a une petite introduction où je mets en scène un peu un historien qui serait l'auteur du livre et qui réfléchit. Est-ce qu'on peut leur attribuer tous les phénomènes? Est-ce qu'ils sont vraiment à la manœuvre ou est-ce qu'ils existent? Ils n'existent pas. C'est une sorte de franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie existe incontestablement, mais de l'ombre. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se réunissent? Peut-être pas, en fait. C'est juste une horde de gens sur Twitter. C'est juste des idées. Et là, d'un coup, ça m'a beaucoup plu parce que c'était romanesque. Et puis, les deux lectures sont possibles. Est-ce que c'est eux qui ont tout manipulé ou est-ce qu'on leur prête trop? Et l'idée que ce soit sur Twitter, qui a été le grand média de la guerre culturelle...
Qui est toujours, d'ailleurs, non ?
Bah, qui l'est plus que jamais, depuis qu'il est entre les mains d'un milliardaire d'extrême droite, oui. Où les positions se sont très durcies, mais Twitter, c'était à la fois... ça a été longtemps, moi, ça fait plus de 15 ans que j'y suis, c'est un lieu d'observation prodigieux, où les idées se confrontent entre elles, forment des hordes, coagulent, etc. Et c'est la première fois... Enfin, mon intellectuel, et en cela, il s'inspire de quelques intellectuels réels, est l'un des premiers à comprendre que le vrai théâtre est là, en fait. C'est pas la presse qu'il faut posséder, c'est Twitter. Celui qui tient Twitter tient le monde.
Alors, votre personnage, votre intellectuel, l'actuel Grémond est inspiré par un personnage bien réel dont on n'a pas encore prononcé le nom, qui s'appelle Laurent Bouvet et qui est mort en 2021. Ce qui se passe d'ailleurs dans le livre, il meurt, votre personnage. Comment vous avez pensé à faire de ce Bouvet un personnage de roman? Parce qu'il est important, il a été très médiatisé, mais il n'est pas non plus central dans l'histoire politique récente.
Alors j'avais fait le coup il y a quelques années avec mon troisième livre qui s'appelait Le Grand Paris.
J'aime bien, j'avais fait le coup.
Non, mais j'avais un personnage qui ressemblait à Christophe Guillouy, que j'avais appelé Machelin, parce que c'était une sorte de francisation de Machiavel, et qui était une sorte de quelqu'un qui manipulait Sarkozy pour l'emmener quelque chose. Et donc je me suis dit, et il mourait, en fait, dans le livre, il était tué un moment. Et donc j'avais gardé cette idée qu'un intellectuel occulte, c'est-à-dire dont on suivrait le parcours, et à un moment il disparaît, et il continue à tenir encore les ficelles de l'histoire. Je me dis, pour un intellectuel, c'est presque merveilleux. Enfin, c'est presque merveilleux, mourir ne l'est jamais, mais d'avoir un destin posthume pour quelqu'un qui voudrait être une idée, ça rappelle cette chose d'un vieux film de Cronenberg où un type inspiré de McLuhan meurt, mais en fait, il continue à vivre. On ne sait pas s'il est mort ou vivant parce qu'il existe sur cassette audio. Voilà, bah, y a cette espèce de bruit de fond comme ça, cette espèce d'éternité intellectuelle. Donc ça c'était intéressant. Et ensuite, ce personnage, moi, il était important que ce soit un personnage pas spécialement connu. Donc, j'ai pas pris... j'aurais pu faire, on me l'a dit, pourquoi tu n'as pas écrit un roman sur Manuel Valls? Manuel Valls, il est trop connu. Voilà, Manuel Valls, il est trop connu. C'était intéressant d'avoir quelqu'un qui s'inspirait de quelqu'un qui signifiait quelque chose aux initiés, mais que le grand public ne connaissait pas forcément.
Et qui était un conspirateur, puisque Macron dit de lui, ils se sont rencontrés, que c'était un conspirateur hors pair. En tout cas, il dit ça dans le roman.
Bah, il était important, ça c'est une autre grande ligne du roman, ça se passe pendant les années Macron, donc il était important de le confronter à Macron à un moment. Ouais.
Mais ils se sont rencontrés ?
Honnêtement, j'en sais rien. J'imagine. Après, l'histoire concrète du printemps républicain fait qu'ils ont plutôt, en dernier lieu, été trahis par Macron, mais Macron les a demi-trahis. Il a trahi les hommes, il ne les a pas nommés députés, mais il a largement adopté leurs idées. Ouais.
Alors, en tout cas, un conspirateur que l'on voit pas mal à la télé, qui est invité dans les cercles de réflexion, comme ce jour-là, à la Fondation Jean Jaurès, qui est vraiment l'association de l'orthodoxie du Parti Socialiste.
Je pense qu'il n'y a pas et qu'il ne peut pas y avoir d'islam de France. Je pense que c'est à la fois une illusion et un danger. Le danger, c'est que ça favorise mécaniquement les musulmans qui ont le plus d'intérêt à agir politiquement, et donc une partie particulière de l'islam. Pas les salafistes qui, eux, restent dans leur coin,
mais plutôt l'islam frériste.
Plutôt l'islam frériste, ouais. Des frères musulmans, l'islam politique, comme on dit, qui veut pousser, qui veut voir reconnaître le fait musulman, ses signes extérieurs, notamment évidemment le voile, etc., mais aussi le halal, tout un ensemble de choses, qui veulent voir reconnaître par la société. Voilà. Donc tout ça est quand même très très complexe. Donc je pense que tout cela devrait être laissé de côté, qu'on devrait revenir sur la loi de 1905, sur à la fois le texte, les textes et l'esprit de la laïcité, qui suffisent très largement à répondre à la nouvelle question laïque.
Alors, Laurent Bouvet, dans ses habits d'essayiste et de prof de sciences politiques, qui est le personnage qui a inspiré votre roman, Aurélien Bélanger, le livre fait la part belle à ses analyses. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'en faire une tribune pour ces idées-là, même si il y a de la distance, de l'humour et de l'ironie dans votre livre?
Moi, j'essaie d'être toujours une position à la Dickens. Dickens, en moquant le travail des enfants et les mauvais traitements des enfants en Angleterre, a probablement beaucoup plus contribué que toutes les lois contre le travail des enfants à rendre ridicule le travail des enfants et à l'abolir. Moi, je me suis dit, si des positions intellectuelles que je trouve douteuses, si j'arrive à les satiriser...
Moi, je ne suis pas sûr que ça existe, mais okay, pourquoi voilà. pas.
Enfin, si la satire est bonne, j'arriverai, ça gagnera. Tous ces jeux compliqués qu'on connaît depuis les années Sarkozy, qui ont une vingtaine d'années d'instrumentalisation de l'islam, de fabrication d'une sorte... ce jeu avec les frères musulmans, en fait, que les frères musulmans, on en fait des gens qui tirent les ficelles et on va systématiquement... Enfin, on ne fait pas ça avec le catholicisme, on considère pas, on n'indexe pas le catholicisme français sur les pires intégristes. C'est quelque chose qu'on a tendance à faire avec l'islam. Je dis, si on arrive un peu à défaire cette espèce de mâchoire qui nous amène des débats stériles et des temps très sombres, si j'arrive à m'en moquer correctement... le boulot sera fait.
Alors, deux autres personnages sont importants dans votre livre, Aurélien Bélanger, deux philosophes, dont l'un, Freyer, avec l'extrême droite. Et là, on voit Michel Onfray derrière ce personnage. Vous allez me démentir ou pas ?
Il y a des lettres en commun et c'est vraiment... soyons honnêtes, accidentel. Qu'il y ait des inspirations, c'est clair, mais les quatre lettres en commun, je les trouvais autrement.
Je vois l'ombre des avocats du Seuil derrière cette réponse. En tout cas, ce Freyer va se présenter à l'élection présidentielle avec la bénédiction de Brigitte, dites-vous.
Qui serait la part de droite, en fait, qui serait l'hémisphère droit du cerveau présidentiel, la fameuse jambe droite. Disons que je lui donne un destin à la Zemmour. Je lui donne un destin à la Zemmour. Et ce qui m'a amusé, c'est de permettre qu'il y ait un deuxième philosophe. Je lui donne plutôt un destin, là, pour le coup, à la Éric Nolot, cet intellectuel pas très connu, mais qu'on a vu, qui n'arrête pas de dire qu'il est de gauche et qu'on a vu au premier rang du meeting de Zemmour, où il est venu en toute amitié, quand même. Bon, voilà. Ça m'a amusé un peu de jouer avec ça.
Oui, donc vous êtes un fin observateur de la vie politique, quand même. Pour écrire un roman comme celui-là.
Bah là, disons que c'était la matière, mais je l'ai fait de mémoire. C'est-à-dire que je ne me suis pas documenté, je me suis dit de quoi je me souviens des 20 dernières années de vie politique en France. Et donc j'ai fait... C'est un roman beaucoup plus proustien qu'il n'y paraît.
Et il y a donc ce personnage Macron, qui n'est pas le personnage principal, mais qui est quand même assez important. Vous en faites un portrait d'ailleurs assez étonnant, assez cruel. Macron qui serait pris de mélancolie légère, selon les mots de Brigitte, le soir de sa réélection en 2022, errant dans les caves de l'Élysée et imaginant l'avenir, repensant à la royauté, à l'ancien régime. C'est un portrait fidèle ?
On a connu des personnages politiques plus ou moins douteux qui ont été président de la République. On a connu Jacques Chirac, on a connu Nicolas Sarkozy. Enfin, je dis douteux. Des gens qu'on a trouvé plutôt autoritaires ou corrompus pour d'autres, etc. Mais toujours, ils étaient tenus vraiment par la croyance que la Constitution, les institutions étaient supérieures à la fonction. Il y a quelque chose, ils se rentraient dans quelque chose. Macron, c'est la première fois comme ça, parce qu'il ne vient pas de la politique. Il découvre la politique un petit peu comme un second métier. Comme ça, tiens, pourquoi pas, la lumière était allumé, je suis rentré à l'Élysée, j'ai pris le pouvoir. Et Macron n'est pas tenu par un habitus démocratique. Il y a quelque chose de bonapartiste. Je ne dis pas que c'est un dictateur en puissance. J'observe juste que tordre les institutions, comme on l'a vu tout l'été, c'est possible. Garder le pouvoir, ne pas avoir de parti à sa main. Ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, il n'a toujours pas vraiment de parti. C'est bizarre. Cette idée que quand il est élu, quand il est réélu, il ne fait pas campagne. Il n'a pas fait campagne pour les législatives, ce qui a donné toute la séquence qu'on connaît, qui a fini en dissolution parce qu'une majorité introuvable. Mais le fond, la clé de cette majorité introuvable, c'est qu'il n'a pas daigné faire campagne, probablement parce qu'il pensait que le sacre de l'élection au suffrage universel direct lui suffisait.
Alors, votre livre, Aurélien Bélanger, se termine avec un nouveau personnage, celui d'un romancier, Sauveterre, qui va recueillir les confidences de Macron. Alors, bien sûr, on pense à El Kabbach dans les derniers jours du mandat de Mitterrand, ou encore à Yasmina Reza, qui, elle, va suivre la campagne du candidat Sarkozy en 2007. Et elle est revenue récemment sur cette expérience. Son livre s'appelait « L'aube, le soir ou la nuit ».
Ce qui m'intéressait, c'est une chose qui ne se fait qu'une fois, c'est-à-dire je voulais comprendre, c'est un livre existentiel, hein, c'est pas du tout un livre politique, je voulais comprendre la substance de l'ambition, la substance de la quête d'un pouvoir. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur lui, ça aurait pu être tout à fait un autre, hein, je l'ai pas pris d'un point de vue idéologique.
C'était au hasard
Pas tout à fait au hasard, évidemment pas, mais... Il était l'homme de la situation, il était là, il était intéressant humainement, et il s'est avéré un personnage merveilleux. Voilà, je pourrais jamais faire quelqu'un d'autre, ça m'intéresserait plus, j'ai vu tout ce que j'avais à voir. J'étais toute la journée avec lui, tout le temps. Ça crée des liens d'affection, enfin moi je l'aime beaucoup, hein. Enfin je l'aimais beaucoup, je ne vois plus. Ça a été le temps de ce livre. Il y a deux personnes quand vous écrivez. Il y a la personne normale de la vie, et puis il y a celle qui est à côté avec un œil acéré, qui regarde tout autrement.
Aurélien Bélanger, je ne vous demanderai pas quelles sont les deux personnes qui sont en vous, mais j'ai envie de vous poser deux questions. Avez-vous rencontré vos personnages pour ce livre? Je crois que la réponse est non. Et rêveriez-vous d'être le confident de Macron?
Je faisais des blagues avant, parce qu'on avait à peu près le même âge, et que quand il était jeune, il voulait être romancier, et moi je voulais être président de la République, en disant qu'on avait inversé notre destin. Mais j'observe, et c'est un vrai problème pour les écrivains en France, parce qu'à moins d'être radical et d'être sur une position non mondaine absolue, et de refuser les médias, les rencontres, on est beaucoup plus proche du pouvoir qu'on devrait. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, au pays où la littérature et le sport national est l'art majoritaire, on est trop aimé par le pouvoir, et inversement, les romanciers sont trop fascinés par le pouvoir. Voilà. C'est quelque chose, ça crée du trouble.
Mais vous pensez que Macron vous aime trop, vous, Aurélien Bélanger?
Il ne devrait pas me considérer, je pense qu'il me considère, il sait que j'existe, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème pour mon indépendance, et moi-même, disons que je mets en scène quand même un romancier qui devient un peu l'historiographe du royaume, comme j'ai dit, ce Racine était l'historiographe de Louis XIV. C'est une position qui nous trouble, et je ne dis pas... On a toujours un petit côté faillot quand on écrivait en France. On était bon en français et puis on finit par être gentil avec le président. Et j'essaie un peu de briser cet arc maudit. Quoi.
Mais il vous appelle demain pour vous dire « J'aimerais que vous racontiez les derniers mois, les dernières années de mon quinquennat. » Vous dites quoi?
Eh ben, j'espère avoir été suffisamment clair pour, dans les circonvolutions de mon personnage de Sauveterre, donc le romancier qui me représente dans le roman.
Et ça se termine mal, hein, d'ailleurs.
Voilà, j'aimerais qu'il ait compris que ce serait une mauvaise idée.
L'hypothèse Cazeneuve à Matignon, est-ce que cela aurait pu être un épilogue de votre roman, Aurélien Bélanger? Vous pensez que c'est juste une parenthèse?
Ah bah, ça aurait été incontestablement été la victoire absolue de mon personnage de Grémond et du mouvement du 9 décembre. C'est vraiment la gauche qui n'est plus la gauche qui fait croire qu'elle est la gauche qui aime l'ordre, l'autorité, une gauche... fossilisée, qui ne devrait plus avoir lieu d'être, une gauche qui plaît anormalement trop à la droite, une gauche qu'on aimerait voir mourir et qui peut-être survit encore un petit peu trop. Quoi.
Merci Aurélien Bélanger. Les derniers jours du Parti Socialiste est publié aux éditions du Seuil, et c'est un roman, mais ça fraye beaucoup avec l'actualité. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Dès demain, nous serons à Bucarest pour le congrès européen des profs de français. À demain.